Alors maintenant, la question c'est comment aller mieux? Ici Lisa pour la chronique Être bien de la Radio Girafe et aujourd'hui, on entre en discussion avec les solutions de la dépression. Et peut-être que pour commencer, avant même de chercher des solutions, avant même de vouloir comprendre, analyser, guérir, il faut simplement pouvoir respirer un peu. Parce qu'aller mieux, ce n'est pas d'abord une décision mentale. Ce n'est pas qu'une question de volonté. C'est une question de sécurité intérieure. Et quand on traverse une dépression, le corps est souvent en alerte permanente, ou au contraire, complètement épuisé, figé. Le système nerveux est débordé, saturé, coincé, en mode survie. Et tant que ce système-là n'est pas un minimum apaisé, tout paraît inaccessible. Réfléchir, demander de l'aide, faire un pas, même minuscule, est compliqué. Alors peut-être que la première étape, la toute première étape, ce n'est pas d'aller mieux, mais de réguler le système nerveux juste assez pour ouvrir une brèche. Un espace où l'idée même d'aller mieux devient possible. Pour information, le système nerveux, c'est le grand réseau de communication du corps humain. Il permet à ton organisme de recevoir des informations, de les traiter et d'agir en conséquence. C'est aussi lui qui gère toutes les sensations, les émotions, la mémoire, les mouvements, bref, tout ce qui fait que tu es vivant ou vivante et que tu peux interagir avec ton environnement. Le système nerveux peut être en alerte et il peut aller mal, dans le sens où il peut être dysrégulé ou sursollicité ou fonctionner en mode survie. Et quand le système nerveux est dérégulé, le corps se met en hypervigilance, en agitation mentale, en anxiété, en irritabilité, le sommeil est perturbé, les réactions sont disproportionnées et le corps peut être tendu. Et oui, le système nerveux, il peut être débordé, fatigué ou bloqué dans un mode. Tout d'abord, il y a le mode figé. Et quand on dépasse nos capacités de stress, le système nerveux, il décroche. Et c'est là que vient la fatigue extrême, l'impression d'être anesthésié émotionnellement, de manquer d'élan, de manquer de motivation, et parfois vient l'isolement. C'est un fonctionnement typique dans la dépression. Il y a aussi le mode chaos. C'est un passage rapide d'un état à un autre. Anxiété, puis épuisement, puis colère, puis silence total. C'est vraiment dans ce système-là. Et ça peut être, le mode chaos, aussi une sensation d'être instable, d'être à fleur de peau. Et ensuite, il y a aussi la dysrégulation durable du système nerveux. C'est quand les stress sont répétés, les traumas et le surmenage empêchent le système de remonter vers un état de sécurité. Et pourquoi c'est important pour parler de dépression? Eh bien parce que la dépression, c'est pas seulement dans la tête, elle est dans le corps, comme on l'a dit dans l'épisode précédent. Et on a dit qu'elle pouvait être dans le microbiote, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, on a parlé juste avant de tout ce qui est mitochondrie, et là, on va parler aussi de système nerveux. Et donc pourquoi c'est important d'en parler dans la dépression, du système nerveux? Eh bien parce que, dans la manière dont le système nerveux réagit, il se protège, il s'épuise, il peut se déconnecter, comme on vient de le dire. Et c'est ce qui va expliquer la fatigue écrasante pendant la dépression, le manque d'envie, le ralentissement, la difficulté à penser, l'impression même d'être dans le brouillard. Et comprendre son système nerveux, ça permet d'aborder la dépression de façon moins culpabilisante, plus humaine et plus physiologique. Et il y a plein de façons de réguler les différentes sphères du système nerveux. Mais il y a trois types qui permettent de le réguler de manière plutôt instantanée et donc d'ouvrir une porte à l'action, à la réflexion et à la prise de décision pour notre dépression. Il y a d'abord la respiration physiologique. C'est respirer 4 secondes, expirer 8 secondes. Donc on allonge la respiration, ça permet d'activer le nerf vague. Et activer le nerf vague, ça permet d'apaiser immédiatement. On peut aussi citer la physiological sigh. C'est double inspiration plus longue expiration et c'est souvent utilisé en neurobiologie. Ensuite, on va parler de l'ancrage sensoriel et plus particulièrement de la technique 5-4-3-2-1. Donc c'est une technique qui permet de revenir au présent en activant les 5 sens. 5 choses que je vois, 4 choses que je touche, 3 choses que j'entends, 2 odeurs et 1 saveur. Et ça permet de réduire l'emballement mental. Ça ramène le corps dans le ici et maintenant. Ensuite, troisième technique, on peut parler d'une petite cohérence cardiaque express. Donc ça peut durer une minute. Même si c'est un peu mieux quand on l'a fait 5 minutes, une minute, ça peut être déjà un moyen de réduire l'activité du système nerveux. Donc, la cohérence cardiaque, ça va vraiment réduire l'activité donc du système sympathique et il faut inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes. Ça va réguler le rythme cardiaque, le stress et l'anxiété. Maintenant, si on prend une quatrième possibilité, ça va être le mouvement. Bouger même 20 à 30 secondes, marcher, secouer les mains, faire du shaking, c'est bouger son corps dans tous les sens, étirer les épaules, et ça va faire une décharge d'adrénaline et ça ramène le système nerveux à un état beaucoup plus stable. Et pour finir, on peut parler du contact, le contact humain ou matériel. Ça va être placer sa main sur sa poitrine, s'envelopper dans un pull, un objet rassurant, et ça va stimuler le système parasympathique via le toucher. Donc ça, c'est vraiment des tout petites choses qui peuvent aider à très court terme, mais qui sont pas encore suffisantes s'il y a vraiment, vraiment des choses, des émotions fortes et un dérèglement important. Mais une fois qu'on fait tout ça, et que notre corps et notre esprit sont un tout petit peu plus ouverts, notre question maintenant, ça va être qu'est-ce qu'on fait pour aller vraiment mieux ? Il est important de consulter un professionnel qui peut être un psychologue, un thérapeute, un psychiatre. La thérapie, c'est un des premiers soins à la dépression. Il arrive parfois que l'on se sente si mal qu'un antidépresseur doive être prescrit. Les antidépresseurs, c'est pour ou contre, certains les prônent, d'autres les condamnent. Les antidépresseurs, ils agissent sur les neurotransmetteurs, comme la sérotonine, la dopamine ou la noradrénaline. Ils permettent de rééquilibrer une chimie cérébrale perturbée, souvent conséquence d'un stress prolongé, d'une inflammation ou d'un déséquilibre du microbiote. En d'autres termes, ils ne réparent pas tout, mais créent un terrain plus stable pour aller mieux. Parce que c'est important de le souligner, les antidépresseurs, ils ne soignent pas, ils ne guérissent pas la dépression. J'aimerais néanmoins vous parler des travaux du docteur en psychologie Irvin Kirsch. Kirsch a analysé des dizaines d'essais cliniques, publiés et non publiés, grâce à la loi sur la transparence des données de la FDA, on les connaît quand même. Et ses conclusions, publiées notamment dans The British Medical Journal en 2008 et son livre The Emperor's New Drugs, Exploding the Antidepressant Myth, en 2010, sont frappantes. 75 à 80% de l'effet des antidépresseurs pourrait s'expliquer par l'effet placebo, c'est-à-dire par l'attente positive du patient et du médecin. Autrement dit, les antidépresseurs n'auraient qu'un effet spécifique faible à modéré, surtout dans les cas de dépression légère à modérée. Leur efficacité claire ne se manifeste vraiment que dans les dépressions sévères où le cerveau est profondément altéré. Les travaux de Kirsch ont contribué à faire évoluer les recommandations officielles, notamment en France, où la HAS déconseille les antidépresseurs pour les dépressions légères. Les travaux de Kirsch, ils ont aussi contribué à renforcer l'idée que la dépression n'est pas seulement une maladie chimique. Et ça a aussi encouragé les recherches sur le rôle du stress, de l'inflammation et du microbiote, et sur la psychologie de la guérison. Donc voilà, c'est important de rappeler que c'est pas noir ou blanc, les antidépresseurs c'est pas forcément pour tout le monde, ça correspond pas à tout le monde, et c'est pas pour toutes les dépressions. En France, 16 millions de personnes parmi les 11-75 ans ont déjà pris des médicaments psychotropes. Les plus consommés sont les anxiolytiques, devant les hypnotiques et les antidépresseurs. Au vu du nombre de personnes qui consomment des médicaments psychotropes, je trouve qu'il est important de parler de l'arrêt des antidépresseurs. Arrêter un antidépresseur n'est jamais anodin, surtout après plusieurs mois ou années de traitement. Ces médicaments modifient l'équilibre chimique du cerveau et principalement de la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Et quand on les arrête brutalement, ou même quand on les arrête tout court, le cerveau il doit réapprendre à fonctionner sans ce soutien chimique, ce qui demande un temps d'adaptation et de la progressivité. Les antidépresseurs, comme certaines drogues ou d'autres médicaments, demandent un sevrage.
Est-ce que tu considères que les antidépresseurs sont une solution ?
Oui,
pas une solution, c'est une aide.
Une aide ?
Oui, il y a des personnes pour qui il est important qu'elles consultent un psychiatre et pas un médecin généraliste. Les médecins généralistes n'y connaissent rien du tout. Un psychiatre pour... Parce que un traitement d'antidépresseur doit toujours s'accompagner d'anxiolytiques au départ. C'est des médicaments pour calmer l'anxiété parce que l'antidépresseur peut générer de l'anxiété, des angoisses. Mmh. Alors déjà que la personne dépressive est déjà un peu angoissée, alors bon, c'est pas la peine d'en rajouter. Et le traitement antidépresseur est long. Il fait de l'effet au bout de 2-3 mois, ça dépend des médicaments. Et il faut pas l'arrêter, il faut continuer, puis il faut l'arrêter. C'est comme un peu une drogue. C'est-à-dire, il faut, comme tout produit, que ce soit des anxiolytiques, hein, il faut y aller par...
Par étape.
Par étape. Faut diminuer le traitement petit à petit.
Il paraît que les sevrages sont très compliqués aussi.
Très compliqués. Mmh. Bien plus qu'un sevrage à l'héroïne, par exemple, ou à la cocaïne en maintenant. Quoi. Mmh. Bien plus.
Et toi, justement, qui as beaucoup travaillé dans le cadre de l'addiction, est-ce que tu as déjà vu des liens entre dépression et addiction ?
Oh, bah oui.
Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que dépression et addiction vont de pair ou pas forcément ?
Non.
Ou est-ce que addiction engendre dépression ou dépression engendre addiction ?
Je dirais que addiction engendre dépression. La personne est dépressive et est déjà dépressive et elle s'automédique en prenant des drogues. Et souvent, ce sont des drogues qu'on dit des drogues comme l'héroïne, c'est-à-dire c'est un dérivé de l'opium, c'est-à-dire des drogues qui t'assomment, qui assomment. Mm. Et quand au sevrage, la dépression peut réapparaître.
Ok.
Comme la maladie mentale, l'automédication. Moi, j'ai rencontré beaucoup de malades dépressifs, de malades psychotiques, des schizophrènes, au sevrage.
D'accord.
Que j'ai emmené à l'hôpital psychiatrique.
Je trouvais ça important d'évoquer cette partie-là, parce que le sevrage des antidépresseurs, et je le savais pas avant, c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine. Et je l'ai découvert que très récemment. La journaliste et autrice Dora Mouto a pour habitude de partager ses réflexions et découvertes sur la santé sur son compte Instagram. Et en septembre et octobre dernier, elle a partagé à ses abonnés son sevrage, après à peine quelques mois de consommation d'antidépresseurs. Et j'avoue, moi, j'étais subjuguée. J'ai vraiment découvert un monde. J'ai trouvé que c'était choquant, révoltant et hyper instructif, parce que j'ai compris à quel point la prise de ces médicaments, ça pouvait vraiment chambouler, en fait. Ça modifie, ça chamboule, ça transforme la chimie du cerveau et par conséquent, celle du corps. Et arrêter des antidépresseurs, ce n'est pas juste ne plus en prendre. C'est vraiment un processus de réadaptation physique, émotionnelle et parfois même identitaire.
En ce moment, je traverse vraiment un épisode que je trouve difficile parce que finalement, j'ai décidé d'entreprendre un sevrage de mon antidépresseur parce que ma prise de conscience vis-à-vis de ma pharmacodépendance à ce truc, ça m'a tellement choquée que je ne peux plus vivre en sachant que je suis dépendante de ce truc. C'est plus acceptable pour moi, en fait. Et même si peut-être le moment s'y prête pas trop, avec le harcèlement, le problème de justice, etc., j'ai décidé que c'était maintenant. Voilà. Je sais pas, des fois tu sens des trucs dans la vie, c'est pas rationnel, etc., mais c'est maintenant. Et j'ai décidé de me sevrer de ce truc. Et autant vous dire que je m'attendais pas à une telle horreur. Donc voilà, j'ai envie d'en parler parce que c'est un sujet extrêmement tabou, le sevrage des antidépresseurs. J'ai reçu énormément de témoignages de beaucoup, beaucoup de gens qui ont réussi très difficilement ou carrément qui n'ont jamais réussi. Et vous êtes un certain nombre à me dire que vous n'avez jamais réussi. C'est-à-dire que, en fait, le sevrage était si difficile que vous avez fini par reprendre le médicament. Ça fait quelques jours que je vis littéralement l'enfer. L'enfer, c'est un enfer physique. franchement, avant de prendre des antidépresseurs, on devrait dire aux gens la vérité. Donc, moi, je le dis.
Alors, pour continuer sur les solutions et les dernières évolutions dans le traitement de la dépression, donc, pour revenir un peu dans le contexte, la dépression, c'est un trouble complexe qui est multifactoriel et qui ne se limite plus à un simple déséquilibre chimique du cerveau. Pendant longtemps, les traitements se sont concentrés sur les antidépresseurs classiques. Mais la recherche montre aujourd'hui une diversité d'approches. Éducation thérapeutique, nouvelles molécules, psychonutrition, interventions biologiques et biologisantes, donc comme la privation de sommeil ou les neurostimulations, et thérapie psychédélique. Cette pluralité illustre combien la prise en charge moderne de la dépression est devenue holistique déjà, intégrant donc le corps, le cerveau, l'environnement et même les rythmes biologiques. Donc pour commencer, si on parle d'éducation thérapeutique, ça va être responsabiliser et accompagner. L'éducation thérapeutique du patient, qui s'appelle ETP, est une composante clé des prises en charge actuelles. Elle est recommandée par de nombreux protocoles de soins. Elle vise à donner aux personnes les connaissances, les compétences et les outils nécessaires pour mieux comprendre leur état, reconnaître les signes d'alerte, adapter leurs habitudes et s'autogérer en lien avec des professionnels de santé. L'ETP permet donc notamment de mieux comprendre les symptômes et leur évolution, d'apprendre des stratégies concrètes face aux déclencheurs émotionnels et d'intégrer des routines de régulation comme la gestion du sommeil, l'activité physique, l'alimentation ou la respiration. Ce principe est central car il replace le patient au cœur de son parcours de soins, il réduit l'impuissance ressentie et améliore l'observance globale des traitements. L'ETP est particulièrement utile dans les troubles de l'humeur chroniques ou récurrents. Et là, ce qui est intéressant, c'est vraiment le rapport à la responsabilisation. Ensuite, je vous ai parlé des nouvelles molécules qui existent. Il y a donc l'esquétamine et les traitements NMDA. La recherche pharmacologique n'est pas restée immobile ces dernières années. Quand on parle de l'esquétamine, c'est un dérivé de la kétamine et il a récemment été étudié en monothérapie contre la dépression résistante, c'est-à-dire lorsque les antidépresseurs classiques ne suffisent plus. Une étude clinique publiée dans JAMA Psychiatry montre son effet rapide et significatif sur les symptômes dépressifs des patients pour qui d'autres médicaments ne fonctionnaient pas. Ces molécules agissent via des récepteurs NMDA, qui sont différents de ceux visés par les antidépresseurs traditionnels, ce qui explique leurs effets qui peuvent se manifester en quelques heures plutôt qu'après plusieurs semaines. Ces changements de paradigme, ils ouvrent vraiment des perspectives pour les formes sévères ou résistantes de dépression. Ensuite, parmi les autres solutions, il y a la psychonutrition et le microbiote, dont on a déjà parlé. Au cœur de l'approche intégrative, la psychonutrition, elle explore comment l'alimentation et la biologie métabolique influencent notre humeur et notre cerveau. Selon le concept du gut brain axis, donc c'est l'axe intestin-cerveau dont on a déjà parlé dans l'épisode sur le microbiote intestinal et le cerveau sont en constante communication à travers le système nerveux, les hormones et le système immunitaire. Une dysbiose, terme que vous connaissez par cœur si vous avez écouté l'épisode sur le microbiote, peut contribuer à l'inflammation et donc modifier la production de neurotransmetteurs, donc les sérotonines, dopamine, etc. Et donc amplifier les symptômes dépressifs. Cette approche, elle appelle à prendre en compte donc la qualité de notre alimentation, le rôle des probiotiques et des habitudes alimentaires saines, l'impact d'une inflammation chronique liée au mode de vie. La psychonutrition, elle remplace pas un traitement classique, mais elle complète le cahier des charges thérapeutiques en agissant sur les facteurs biologiques souvent négligés. Parmi les solutions exploitées, il y a aussi la chronothérapie et la privation de sommeil. C'est donc exploiter les rythmes biologiques. Le sommeil et les rythmes circadiens jouent un rôle essentiel dans l'humeur. Les recherches du docteur Pierre-Alexis Geoffroy montrent que des interventions comme la privation de sommeil contrôlée ou la lumière vive peuvent parfois induire une amélioration rapide des symptômes dépressifs, spécialement lorsqu'elles sont associées à une stabilisation des rythmes veille-sommeil ou à une thérapie comportementales ciblées. Ces stratégies, elles sont parfois appelées chronothérapie, et elles exploitent l'influence des cycles biologiques sur les neurotransmetteurs, l'humeur et l'activation du cerveau. Elles ne sont pas des solutions isolées, mais elles ouvrent des pistes alternatives pour relancer certains mécanismes biologiques dysfonctionnels. Ensuite, une autre possibilité, qui n'est pas encore la dernière mais bientôt, ça va être la neurostimulation, la neuromodulation et les ultrasons. Pour les formes vraiment résistantes de dépression, certaines interventions agissent directement sur l'activité cérébrale. Par exemple, l'ECT, qui est l'électroconvulsion thérapie, malgré sa réputation, l'ECT reste quand même l'une des techniques les plus efficaces contre les dépressions sévères, avec des réponses rapides selon le site Neurostim. Ensuite, il y a la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, qui s'appelle RTMS. Elle est non-invasive et elle modifie l'activité électrique des zones clés du cortex. Ensuite, il y a le stimulateur du nerf vague, c'est une technique qu'on appelle VNS. Une étude française pilote l'implantation de ce dispositif dans des formes résistantes. Et pour finir, il y a les ultrasons focalisés. C'est une piste innovante qui a été testée sur des zones profondes du cerveau. Elle est non-invasive et elle montre des réductions marquées des symptômes dans une petite étude du CNRS. Ces techniques, elles illustrent combien la neurobiologie de la dépression peut être abordée de façon active quand les traitements classiques sont insuffisants. Pour finir, parmi les différentes techniques, il y a celle dont on parle de plus en plus parce qu'elle pose des questions morales liées à la drogue en France, c'est les psychédéliques. C'est vraiment la renaissance des molécules dites taboues. La thérapie psychédélique ou psychothérapie assistée par psychédélique constitue une frontière scientifique émergente. Des substances comme la psilocybine, le LSD ou la MDMA sont à l'étude pour leur capacité à induire des états modifiés de conscience. Ça peut parfois favoriser la réorganisation profonde de la pensée, de l'affectivité et de la cognition. Par exemple, la psilocybine, elle a montré dans des essais cliniques une réduction significative des symptômes dépressifs, parfois durables, après une seule ou quelques sessions. Et la kétamine et l'esquétamine, dont on a déjà parlé, elles ont été vraiment bien étudiées et elles agissent rapidement et ouvrent vraiment la voie à des psychédéliques de nouvelle génération. Ces approches, elles s'accompagnent généralement d'un accompagnement psychothérapeutique intensif, et l'effet n'étant pas seulement pharmacologique, mais aussi expérientiel et relationnel. Des acteurs comme l'auteur et journaliste Stéphane Alix s'intéressent à ces pratiques dans une optique thérapeutique vraiment structurée. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, le traitement de la dépression, il ne se résume plus à une seule approche. Il s'agit d'un continuum, du soutien éducatif et comportemental à la chimie du cerveau, des rythmes biologiques aux technologies de neuromodulation et des molécules classiques aux psychédéliques. Et ensemble, ces pistes, elles montrent que soigner la dépression, ça requiert une compréhension intégrée du corps, j'allais dire du cœur, mais du corps, mais aussi un peu du cœur finalement, du cerveau et de l'environnement. Et ça dépasse vraiment les frontières traditionnelles entre disciplines. Ces perspectives, elles sont profondément humaines, scientifiques, et elles ont enrichi non seulement les stratégies thérapeutiques, mais elles ouvrent aussi de nouvelles façons d'envisager la reprise de contrôle sur sa santé mentale, loin de la stigmatisation et au cœur de la complexité de l'être humain. La dépression s'invite souvent sans prévenir. Elle ne frappe pas toujours fort. Elle s'infiltre. Au début, c'est une fatigue qu'on met sur le compte du travail, du stress, du manque de sommeil. Et puis petit à petit, elle s'installe dans le corps. Les épaules s'alourdissent, le souffle se raccourcit, tout semble demander plus d'efforts. Et dans la tête, c'est un brouillard, une perte d'élan, une incapacité à ressentir la joie comme avant. Les gestes du quotidien deviennent mécaniques et vides de sens. Et dans les relations, la dépression, elle isole souvent. Pas toujours, mais souvent. Et c'est pas toujours volontaire, mais parce qu'elle, en fait, elle épuise la capacité à parler, à écouter, à partager. On s'éloigne doucement, on se renferme, elle s'immisce aussi dans les silences, ce qu'on garde pour ne pas inquiéter, et ce qu'on subit parce que les mots ne suffisent plus. La dépression, elle s'installe là où il y a une faille, un trop-plein, un manque, une douleur restée en suspens. Elle s'y loge d'autant plus facilement qu'on apprend encore trop peu à reconnaître ses signes. C'est une maladie qui prend la forme de ce qu'on ne dit pas et de ce qu'on ne comprend pas tout à fait. La dépression, elle se soigne. Dépression un jour ne veut pas dire dépression toujours. Ici, chez Radio Girafe, on discute de tout ce qui touche physiquement ou mentalement. On apprend, on questionne, on propose des ressources pour que chacun reprenne le pouvoir et la souveraineté sur sa santé. J'ai voulu parler de la dépression, qui est un sujet hyper complexe, hyper large, et j'ai pas traité la dépression dans son entièreté, mais j'ai essayé de faire quelque chose le plus complet possible. Et j'aimerais maintenant, pour ouvrir nos esprits, nous parler de ce que le Japon nous rappelle du soin. Après avoir exploré toutes ces pistes, la thérapie, les médicaments, les nouvelles molécules, la psychonutrition, etc., etc., il y a une chose qui apparaît clairement. Il n'existe pas une seule solution à la dépression, mais plusieurs chemins. Et peut-être que c'est là que la culture japonaise nous éclaire autrement. Au Japon, on dit parfois que quand quelque chose se fissure, on ne cherche pas à le masquer, ni à le réparer comme si rien ne s'était passé. On le consolide, en laissant visibles les fractures. Peut-être que vous allez comprendre de quoi je veux parler. Et ça s'appelle l'art du kitsungi. C'est réparer avec de l'or ce qui a été brisé. Non pas pour effacer la blessure, mais pour lui donner une autre place. Soigner la dépression, ce n'est peut-être pas revenir comme avant. C'est apprendre à vivre avec ce qui a été traversé, en réorganisant son rythme, son rapport au corps, au repos, aux attentes. Et dans certaines approches japonaises du soin, on ne demande pas à la personne d'aller mieux rapidement, on lui permet d'être là, dans un cadre stable, répétitif, sécurisant, parce que parfois, aller mieux commence simplement par ne plus être pressé d'aller mieux. Ce que nous disent toutes ces solutions, au fond, c'est que la dépression n'est pas une faute, c'est pas un échec personnel, et ça c'est important de le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont considérer que c'est un échec. C'est souvent le signal qu'un système biologique, émotionnel, relationnel, a été trop sollicité et trop longtemps. Et soigner, ce n'est pas forcer le retour à la performance, mais réapprendre l'équilibre, un peu comme le kitsungi finalement. Reconstruire avec de l'or. Et peut-être que la véritable question n'est pas seulement comment guérir de la dépression, mais comment créer des vies qui n'abandonnent pas le vivant en nous. Ici Lisa, pour la chronique Être bien sur la Radio Girafe. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye!